je suis de la faculté de lettres et langues, je co-dirige le master littérature et politique. Et cette conférence a lieu donc, dans le cadre d'un cycle de conférences sur, en gros, littérature et savoir. À quoi pense la littérature? C'est la question que nous nous sommes posées à travers trois conférences, quatre conférences en fait, qui abordent ce questionnement assez vaste, comme vous l'imaginez, de plusieurs points de vue différents, puisque la conférence d'après, qui devait être celle d'avant, sera une conférence d'Antoine Debecq sur littérature et cinéma et sur à quoi pense le cinéma la littérature. Donc aujourd'hui, la question qu'on va se poser sera toute différente, comme le corpus qui sera différent. Je laisse Frédéric Aitouati évidemment vous présenter l'objet de sa conférence, mais il s'agira plutôt du rapport entre littérature et science. Et donc Anne, est-ce que je présente rapidement Frédéric? Donc Frédéric Aitouati est maître de conférence à Oxford, professeur associé à Sciences Po, on peut dire ça, voilà, professeur associé à Sciences Po Paris. Elle a fait une thèse à Paris 4 sur, donc, qui a donné lieu à l'essai dont je pense qu'elle va aussi un peu nous parler aujourd'hui sur les voyages dans la Lune.
Conte de la Lune.
Ça s'appelle Conte de la Lune, mais c'était sur les fictions scientifiques. Enfin, j'imagine qu'elle va contester complètement ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Sur les fictions scientifiques pendant de l'époque de la Révolution scientifique, donc du XVIe et du XVIIe siècle, et sa thèse a ensuite donné lieu à un essai qui a été publié à la fois chez Gallimard l'année dernière sous le titre « Conte de la Lune » et par ailleurs qui a été publié également en anglais il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, ou un mois, chez Chicago Press. Et par ailleurs, c'est une très très grande amie. Voilà. Donc je l'ai invitée à la fois pour ses grands mérites et aussi parce que je la connais. Voilà, je lui cède la parole et donc nous aurons un temps de questions après sa conférence. Merci d'être venue, Frédéric.
Merci, Raphaël. Oui, ça ne sera pas long. Je voulais remercier la Faculté des Lettres et je suis très contente de travailler avec ce laboratoire et avec cet UFR et Raphaël Guindet. Et en fait, moi, la rencontre que j'ai eue avec Frédéric Aitouati, elle est auditive parce que je l'ai écoutée sur France Culture et j'ai dit, comme d'habitude, cette personne doit venir à Poitiers. Et donc, parce que les thèmes qui sont liés à la littérature et la science, en fait, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle maintenant vulgairement transdisciplinaire, c'est absolument pas évident. Et je trouve que c'est très très bien mené et cet ouvrage est un petit bijou, vraiment. C'est très très beau livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait que je l'ai lu quand il commençait à neiger. Et ça commence par la présentation d'un texte de Kepler qui s'intitule, qui est un cadeau à son ami Wackenfels, et ça s'intitule « L'étrenne ou la neige sexangulaire ». C'est la description d'un flocon de neige. Ça commence déjà très très bien. On vous écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup Anne Bonnefoy, merci Raphaël. Je suis très touchée par votre accueil. C'est la première fois que je suis invitée dans un cadre qui dépasse un peu les séminaires spécialisés, qui est un petit peu plus large. Voilà, donc je suis très, très émue, en fait. Et par ailleurs, j'ai couru pour venir, donc je suis enrouée. J'espère que je vais tenir l'heure. J'ai du thé, j'ai vous comme auditeur, mais je suis désolée par avance si la voix est un peu fragile. À quoi pense la littérature? Lorsque j'ai été invitée à participer à ce cycle de conférences, l'ampleur de la question m'a quelque peu effrayée. Mais en même temps, elle a immédiatement suscité en moi beaucoup d'intérêt, puisque l'idée même d'une littérature capable de penser nous place au cœur des discussions contemporaines autour des capacités cognitives de la fiction et du rôle de la littérature. Cette question fait surtout écho à une intuition forte, que je ne suis pas la seule à partager, il me semble, pour tous ceux qui aiment, qui travaillent, qui enseignent, qui font de la littérature. La littérature n'est pas un simple supplément d'âme, elle est au contraire au cœur de notre rapport au monde et aux autres. Bref, nous ne cessons de penser avec la littérature. C'est cette intuition qui m'a conduite il y a longtemps maintenant, depuis le début de mon travail, à m'intéresser à des cas tangibles de cette pensée de la littérature, en me demandant quel type de savoir elle pouvait produire. Et pas seulement quel type de savoir, mais quel type de science. Et comme le disait Raphaël Guindet, je suis un petit peu allée chercher les extrêmes, c'est-à-dire le savoir le plus dur, celui de la science, et non seulement la littérature, mais la fiction, c'est-à-dire ce qu'il y a apparemment de plus fantastique, de plus fantaisiste, de plus imaginaire dans la littérature. Et c'est vraiment cette réunion des extrêmes qui m'a conduite, poussée, qui m'a motivée pendant des années de travail. Donc, loin de pouvoir répondre à la grande question, ambitieuse question, à quoi pense la littérature, je vais donc tenter aujourd'hui de cerner quelques aspects d'une question beaucoup plus réduite, mais qui fait partie, me semble-t-il, de notre questionnement plus général. Ma question sera donc, comment la fiction pense-t-elle ? Comment, autrement dit, ce qui semble être la partie la plus fantaisiste de la littérature, comme je le disais, peut-elle livrer un savoir ? Peut-elle peut-être être un outil de connaissance ? Pour répondre à cette question, je vous propose un double voyage, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps d'abord, parce qu'il faut revenir au XVIIe siècle pour trouver une période pendant laquelle la division que nous connaissons aujourd'hui entre littérature et science est caduque. Les deux termes d'ailleurs n'existent pas à l'époque. On parle de belles lettres, on parle de littéraria, mais on ne parle pas vraiment directement de littérature. Et puis le mot de science, s'il existe, est utilisé dans des domaines plus précis que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et finalement, les domaines ne sont pas constitués, les domaines que nous connaissons. La science, par exemple, n'a pas de lieu propre. Elle se fait en partie dans les universités, mais aussi en partie dans les salons. Son discours est transversal, erratique, et cette science elle-même est remplie de savoirs qui empruntent au merveilleux traditionnel, à la magie. Donc, loin d'être un simple matériau dans lequel les écrivains puiseraient, la philosophie naturelle, comme on l'appelle alors, construit ses méthodes à partir d'un socle commun, les concepts rhétoriques et poétiques hérités de l'humanisme renaissant. Voyage dans l'espace ensuite, parce que c'est dans le domaine de l'astronomie que j'aimerais vous amener aujourd'hui. L'astronomie, je suis arrivée à l'astronomie pas vraiment par choix ou par goût, même si c'est fascinant, mais parce que c'est le lieu dans lequel j'ai trouvé le plus d'exemples frappants de ce lien dont je vous parlais tout à l'heure, le lien des extrêmes entre la fiction et la science. Au XVIIe siècle, par ailleurs, l'astronomie est à la mode. Donc quand on cherche des discours scientifiques au XVIIe siècle, on a de fortes chances de tomber sur de la cosmologie, de la cosmographie et d'autres sujets connexes. Pourquoi est-ce que c'est dans le domaine de l'astronomie qu'on trouve les exemples les plus frappants de cette réunion ? Parce que l'astronomie pose à cette époque des problèmes spécifiques de visibilité et de crédibilité, qui relèvent de questions littéraires, en fait. L'accès au lointain du cosmos suppose des techniques d'écriture pour décrire l'invisible, imaginer l'inimaginable, dire l'inconnu des nouveaux mondes cosmologiques. Vous le savez, je vais y revenir en expliquant plus précisément les différentes étapes, mais vous savez que le XVIIe siècle est le siècle de la révolution astronomique, ce qu'on a appelé, sous d'autres termes, la révolution copernicienne, la révolution galiléenne. Enfin, il y a plusieurs façons de nommer cette époque. Que se passe-t-il, tout simplement, en deux mots ? On passe d'une vision du monde où la Terre est au centre de l'univers à une autre vision, tout à fait nouvelle, où c'est le Soleil qui est au centre. Alors, la question que je ne cesse de reformuler depuis tout à l'heure se précise encore un peu. Elle devient : comment les astronomes du XVIIe siècle ont-ils pensé le bouleversement de la cosmologie avec, par, grâce à la fiction ? Alors, il faut revenir un petit peu en arrière et expliquer un petit peu de quels outils ils disposent, ces astronomes. Ils ne disposent pas des moyens algébriques ou des instruments dont disposeront Newton et ses successeurs pour démontrer ce qu'on appelle l'héliocentrisme, le fait que le Soleil est au centre, pour démontrer le mouvement de rotation de la Terre ou pour démontrer les lois de l'attraction universelle. On est à une époque où on est un petit peu entre deux, si vous voulez, où toutes ces règles, toutes ces lois scientifiques qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé leurs outils de démonstration scientifique, algébrique. Donc, si vous voulez, tout ce dont j'ai parlé, enfin une partie de ce dont j'ai parlé ce soir, se situe entre le tournant copernicien, hein, la révolution de la publication de l'ouvrage Copernic en 1543, et la rupture ensuite opérée par Newton à la fin du XVIIe siècle. Entre ces deux époques, il y a presque un siècle et demi, l'astronomie reste une science de conjecture. Le débat cosmologique fait rage et s'appuie bien souvent sur des outils que nous ne considérons plus comme scientifiques. Des récits, des images, des fictions. Et moi, je me suis intéressée à des textes de scientifiques de l'époque, des savants, des astronomes, qui sont, vous allez le voir, à la fois sérieux et ludiques, scientifiques et imaginaires. Ce sont des textes où se joue moins une révolution astronomique qu'une lente acceptation de l'idée d'une Terre excentrée dans un cosmos infini. Et bien sûr, pour que cette acceptation se diffuse dans les consciences, il faut d'abord gagner la bataille sur le front des images. Il faut substituer au cosmos ancien, que je commence par vous montrer tout de suite, mais je vous l'expliquerai plus précisément, un peu plus large comme vision. Donc, il faut substituer à ce cosmos clos, ancien, fermé, centré autour de la Terre, un autre cosmos, élargi, transformé, un ordre des planètes bouleversé. Et c'est dans ce contexte que la fiction, comme je vais essayer de vous le montrer ce soir, joue un rôle central. Excusez-moi. Pourquoi elle joue un rôle central ? Parce qu'elle permet de substituer donc une nouvelle image mentale du cosmos à l'ancienne. Seule la fiction peut permettre de dépasser les limitations du réel observable pour trouver un point de vue nouveau d'où décrire le monde. Tel est le paradoxe qui m'a beaucoup intéressée. Au XVIIe siècle, les textes les plus efficaces dans la transformation des représentations du cosmos sont des fictions. Je parlerai aujourd'hui en priorité de Kepler et de Huygens, qui ont utilisé tous deux la fiction comme outil, dans un texte pour le cas de Kepler intitulé le somnium, le rêve, et le cosmothéoros, dans le cas de Huygens. Ces textes ne sont pas du tout les plus connus des deux savants. Quand on cite Kepler ou Huygens, on cite le mystère cosmographique, on cite la nouvelle astronomie de Kepler, et puis de Huygens, on cite ses travaux sur la probabilité, sur les horloges. On ne cite pas forcément ces textes-là. Ils ont même parfois été considérés comme mineurs ou comme secondaires, parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de la science, hein, à une certaine idée un peu figée de la science. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que ces textes ne sont pas des erreurs de parcours, ne sont pas des hasards. Hein. Ils existent à cette période-là de l'histoire des sciences parce qu'ils correspondent à une nécessité de trouver de nouveaux arguments en faveur du géocentrisme, d'autres outils pour explorer les lointains. Loin du matériau aride qu'une certaine vision de la science pourrait laisser présager, il recèle des descriptions ciselées comme des miniatures, détaillées comme des tableaux hollandais, ayant pour objet l'anneau de Saturne, des machines volantes de factures diverses, des voyageurs cosmiques au long cours, des instruments optiques aux propriétés surprenantes. À la suite des voyageurs de la Renaissance, les philosophes naturels, comme on les appelle, les savants, ont eu recours à des instruments pour découvrir des pistes inédites, mesurer des phénomènes insolites et cartographier de nouveaux mondes. Des astrolabes, des globes, des cartes du ciel, vous en voyez une, des gravures, des diagrammes, des télescopes, des microscopes, des sphères armillaires, des machines volantes. Tout cela, ils l'ont ajouté, ou plutôt ils ont ajouté à tout cela des fictions. C'est l'association de ces outils, des outils scientifiques d'une part et des outils littéraires d'autre part, qui m'a vraiment intéressée. Et je vais essayer de vous montrer comment ça s'est fait dans les textes, hein, cette superposition, si vous voulez, d'outils qu'on a tendance d'habitude à séparer, à ne pas, on n'imagine pas qu'on puisse réunir dans un même texte, dans un même auteur, dans un même projet de recherche, des outils aussi différents. Voilà donc ce que je me propose de faire aujourd'hui, vous raconter quelques-unes de ces histoires, de ces récits, vous montrer certaines des images qui m'ont accompagnée le long de ce travail, qui m'ont le plus frappée aussi, puisque c'est des images qui ont gardé leur, me semble-t-il, leur pouvoir de fascination. Mais d'abord, petit moment un peu précis d'histoire des sciences. Il faut qu'on soit bien tous d'accord sur quelles sont les principales étapes de la révolution copernicienne. Ça ne va pas durer très longtemps, mais je tenais à passer par cette étape-là. Donc, il faut rappeler pourquoi l'astronomie était à la mode à cette époque-là, plus qu'à la mode. Pourquoi l'astronomie était au centre des discussions savantes en ce début du XVIIe siècle. Alors, là, vous voyez, j'ai pris dans la petite présentation, la petite suite d'images que je vais vous montrer ce soir, j'ai utilisé un graveur, un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andreas Cellarius, qui est celui qui a vraiment essayé de réunir dans un atlas du ciel, et absolument extraordinaire, l'un des premiers en couleur de l'époque, qui date de la fin du XVIIe, de 1660. Il a essayé de réunir un petit peu toutes les théories cosmologiques de son temps et d'avant. Donc c'est assez intéressant pour nous, pour visualiser, puisqu'il s'agit bien de visualiser ici, hein, à chaque fois, que ce soit par des images ou par des textes, pour visualiser les différentes étapes de cette révolution. Donc là, il nous propose, Cellarius, la machine ptolémaïque, comme il l'appelle, qui est intéressante parce qu'elle repose sur la physique aristotélicienne. Dans cette cosmologie donc de Ptolémée, le monde est composé de deux régions, fondamentalement. Une région élémentaire, sublunaire, sous la Lune, qui comprend les quatre éléments ordonnés du plus bas au plus élevé. Et là, vous les voyez très bien représentés par Cellarius. La Terre, au centre. Ensuite, il y a une espèce de couche d'eau. L'air, qu'il a représenté par des nuages. Et puis le feu. Voilà les quatre éléments fondamentaux qui forment cette région sublunaire. Et puis, au-delà, on a une région éthérée, supralunaire, au-dessus de la Lune, à partir de la Lune, si vous voulez, parce que la Lune en fait partie, qui entoure la première et qui comprend 9 cieux ou sphères cristallines, c'est-à-dire des orbes, voilà, les éléments un peu plus proches, et toujours une représentation de Ptolémée, puisqu'on a la Terre au centre, et les orbes. Ce qu'il faut noter, c'est que ces orbes sont solides. Ces sphères cristallines sont censées être le support des planètes, si vous voulez. Et au-delà se trouve l'Empyrée, où flottent là des petits poupies. Voilà, donc on a le séjour des bienheureux au-delà de ce monde clos. La matérialité de ces orbes fait déjà l'objet de discussions au XVIe siècle, mais elle reste généralement admise. Elle reste même admise par Copernic. Et Copernic, je vous le disais tout à l'heure, c'est la rupture, donc le début de la révolution copernicienne en 1543. En 1543 paraît le texte appelé « De la révolution des orbes célestes » qui propose un modèle de l'univers non plus géocentrique, donc avec la Terre au centre, mais héliocentrique. Le Soleil est au centre, et vous le voyez, la Terre et les autres planètes tournent autour de lui. Copernic conserve dans son système la structure des orbes solides, je vous le disais. Il faut attendre 1577, et l'astronome danois Tycho Brahe, pour réfuter cette conception de l'univers. Et en fait, c'est en observant une comète en 1577 que Tycho prouve que les anciens orbes solides sont totalement caduques, hein, puisqu'une comète traverse, par définition, ces différents orbes. Dans le système copernicien tel qu'il est compris et interprété au XVIIe siècle, vous le voyez, les sphères ont disparu, les étoiles fixes sont une infinité d'autres soleils situés à une distance extraordinaire de la Terre. L'espace au-delà des étoiles fixes n'est plus un espace inconcevable, mais la distance infinie ou indéfinie, dira prudemment Descartes, qui sépare les mondes à perte de vue et de pensée. Le modèle copernicien, vous l'imaginez bien, ne fait pas que des adeptes. C'est pour ça qu'il y a débat, c'est pour ça qu'il y a bataille, c'est pour ça qu'il y a toute cette époque de discussion autour de l'astronomie. Et bien sûr, il est accepté par une partie de l'Europe savante dès les années 1550, en fait, quelques temps après la publication de Copernic. Mais il est accepté simplement comme un paradoxe ou comme une hypothèse utile au calcul des astronomes. ainsi compris le système de Copernic, ne semble pas mettre en danger la pensée cosmologique et religieuse en place et ne suscite en fait aucune polémique comparable à celle que provoquera le procès de Galilée plus tard. Il faut attendre les travaux de Kepler et de Galilée au début du XVIIe siècle, donc presque un demi-siècle après Copernic, pour que ce qu'on appelle l'hypothèse copernicienne, ce modèle-là que vous voyez, héliocentrique, commence à trouver des défenseurs et des preuves, et donc à faire peur. Lorsqu'en 1609, Galilée dirige une lunette d'approche vers le ciel, que découvre-t-il ? Ceci. Le Messager des étoiles, grand texte de Galilée publié en 1610, donc vraiment plus d'un demi-siècle après Copernic, vous le voyez, ce texte s'ouvre sur la description saisissante d'une surface lunaire inattendue et irrégulière. Galilée conteste ainsi la théorie d'Aristote, vous l'avez compris, qui disait que la Lune était lisse et absolument incorruptible. 1609-1610, ce sont des années marquantes pour l'astronomie. C'est à ce moment-là aussi que Kepler réussit à expliquer les irrégularités du mouvement des astres, en substituant au cercle bien régulier que je vous ai montré tout à l'heure de la cosmologie de Ptolémée, sa théorie des ellipses, qu'il publie en 1609 dans la Nouvelle Astronomie. Puis il publie une défense de Galilée en 1611. Vous voyez que l'époque est pleine de controverses. On appelle donc révolution astronomique cette période qui va de 1543, du De Revolutionibus, au Principia de Newton en 1687, en passant par les découvertes successives de Tycho Brahe, Galilée, Kepler, Descartes, Huygens et les autres astronomes du siècle. Alexandre Coiré a décrit cette période comme le passage du monde clos à l'univers infini. Or, et c'est bien là que je reviens à ma fiction, jusqu'à Newton et à la publication des Principia, aucune de ces hypothèses astronomiques n'est à proprement parler prouvée, car personne n'a pu en donner de démonstration mathématique, ni d'ailleurs d'observation suffisamment parlante pour être acceptée. Galilée, vous le savez, va être condamné en 1633. L'Église n'acceptera pas le Messager des étoiles, n'acceptera pas ses observations et ses gravures comme preuve. Donc, que permet la fiction dans ce contexte ? Elle permet, et c'est mon second point, de changer, de transformer radicalement l'image de la Lune. Au XVIIe siècle, la Lune est au centre des débats. Il faut qu'on reste un petit peu sur cet astre. Elle occupe, vous l'avez compris, dans la cosmologie traditionnelle, une place essentielle que la révolution copernicienne bouleverse. Or, avec Galilée, on a l'image de cette Lune tachée. Galilée dévoile un paysage de montagnes, de vallées et de lacs. Il fait ainsi de la Lune une autre Terre à découvrir. Comme l'explique Fontenelle, dont je parlerai un petit peu également dans les entretiens sur la pluralité des mondes, et je cite Fontenelle, « Les savants qui y voyagent tous les jours avec des lunettes d'approche vous diront qu'ils y ont découvert des terres, des mers, des lacs, de très hautes montagnes, des abîmes très profonds. Enfin, on connaît assez toutes ces différentes parties pour leur avoir donné des noms, et ce sont souvent des noms de savants. Un endroit s'appelle Copernic, un autre Archimède, un autre Galilée. Il y a un promontoire des songes, une mer des pluies, une mer du nectar, une mer des crises. Enfin, la description de la Lune est si exacte qu'un savant qui s'y trouverait présentement ne s'y égarerait non plus que je le ferais dans Paris. » C'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. On est à l'époque des cartes de la Lune de plus en plus précises que des gens comme Cassini dessinent. Alors, j'en ai mis une un petit peu moins connue, qui est, c'est pas une carte de la Lune, mais c'est un petit bout de la Lune, un petit bout d'un cratère, qui est dessiné par un Anglais un peu original que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Hooke, qui est surtout un microscopiste, qui s'est passionné pour les insectes et pour la microscopie. Mais en fait, il se passionne pour l'optique en général, et donc il a aussi voulu, par une espèce d'effet comme ça, visuel impressionnant, prouver qu'avec ses instruments optiques, il était capable de décrire très précisément, un détail de la Lune. Le même Robert Hooke bien sûr, se moque des astronomes qui l'ont précédé, des tenants de l'ancienne philosophie, qui étaient incapables de produire des images aussi précises que lui. Et je cite Hooke, il dit « Ils ont confiné leur imagination et leur vision dans les bornes de leurs propres pas. Ils imaginent que le soleil a la grosseur d'un tamis et la lune d'un fromage de cheddar, à peine éloigné d'un mile. » Kepler lui accorde également une place centrale à cette lune, dans sa nouvelle astronomie. Notamment dans un texte étrange intitulé « Le songe », dont je vais vous parler un tout petit peu, qui est à mi-chemin entre un traité astronomique et un récit de voyage imaginaire. Dans le songe, un démon explique comment il emmène des hommes sur la Lune, en un voyage à la fois incroyable et absolument crédible, puisqu'il est fondé sur des théories physiques, expliquées par Kepler par ailleurs. En fait, Kepler écrit un texte qui est à la fois une fiction qu'on aurait beaucoup de mal à croire, hein, puisqu'il est, je vais vous lire un petit passage où les démons emmènent des hommes sur la Lune, et en même temps, et c'est là qu'il faut bien comprendre le statut de la fiction dans ces textes, en même temps, cette fiction est constamment justifiée, expliquée par des notes de bas de page, très nombreuses, plus grosses d'ailleurs en termes de pages que le texte lui-même, qui servent à développer la théorie des éclipses, la théorie des ellipses, et qui s'appuie donc sur toutes les découvertes de Kepler. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est de voir à quel endroit se situe la fiction chez Kepler. Elle sert en fait à nous faire monter sur la Lune, et ensuite à partir de là, quand on y est, on peut reprendre une discussion scientifique sérieuse, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, il nous demande de croire sa fiction. La fiction est là comme un outil vraiment spéculatif pour nous emmener ailleurs dans la réflexion et dans la discussion. Je cite le petit passage du songe qui nous emmène dans la Lune. Nous, les démons, c'est les démons qui parlent, nous n'avons que quelques hommes pour compagnons, seulement ceux qui nous considèrent le plus. Tous ensemble, nous nous jetons sur un homme de cette espèce, tous, nous le poussons par-dessous et l'élevons ainsi dans les airs. Le choc initial est très pénible pour lui. Il souffre comme s'il était un projectile lancé par un canon et voyagé au-dessus des mers et des montagnes. Il faut donc l'endormir dès le départ à l'aide de narcotiques et d'opiats et déployer ses membres pour que l'avant de son corps ne soit pas séparé de l'arrière, ni sa tête du reste du corps, et que la violence du choc se répartisse dans chacun de ses membres. Nous remédions au premier en utilisant de nouvelles difficultés se présentent alors. Le froid intense et l'impossibilité de respirer. Nous remédions en premier en utilisant un pouvoir inné en nous, à la seconde, l'impossibilité de respirer, en passant des éponges humides sous ses narines. Voilà comment Kepler résout de façon assez fantaisiste le problème du voyage dans l'espace. Vous voyez bien que ce texte s'inscrit un petit peu à la suite des récits de voyage au Nouveau Monde. Le voyage dans la Lune, ici, est décrit comme un débarquement. Et ce sera le cas très souvent au XVIIe siècle, dans des textes qui vont reprendre ce type-là de récit. La Lune devient alors l'équivalent céleste d'une île sur laquelle on débarque, si vous voulez. D'ailleurs, après la traversée, le lancer de canon, si vous voulez, du départ, le corps flotte, comme s'il s'agissait d'un voyage maritime, et ensuite, il atterrit, ou plutôt il alunit. Je vous lis le petit passage sur l'alunissage. Quand la première partie du trajet est accomplie, le transport devient plus facile. Nous laissons alors les corps flotter à l'air libre et retirons nos mains. Les corps se mettent en boule, comme des araignées, et nous les transportons presque par notre seule volonté, si bien que la masse du corps se dirige d'elle-même vers l'endroit prévu. Mais ce mouvement ne nous est guère utile, car il est trop lent. C'est pour ça que nous augmentons la vitesse du déplacement en utilisant notre volonté, comme je l'ai dit. Nous précédons le corps pour l'empêcher de se faire du mal en heurtant trop violemment la surface de la Lune. En 1609, lorsque Kepler commence la rédaction de ce texte, à partir d'éléments d'une dissertation qu'il avait écrite plus jeune quand il était étudiant à Tübingen, 75 ans ont passé depuis la publication de la Révolution des orbes célestes de Copernic. Mais, comme je vous le disais en introduction, l'héliocentrisme n'est pas encore accepté par les astronomes. Kepler est en fait l'un des premiers, avec Galilée, à le défendre ouvertement. Et il le défend, entre autres, dans ce texte, de façon très explicite. Et vous le voyez, pour ce texte, pour l'astronome, il ne s'agit pas seulement ici de construire un espace théorique de cosmologie copernicienne. Autrement, il lui suffirait de construire des diagrammes, mais bien un espace tangible. Et c'est là aussi que la fiction a un rôle à jouer, puisqu'elle elle inscrit le corps dans la réflexion. Elle nous oblige à imaginer réellement les conditions physiques de ce déplacement dans l'espace. C'est donc, avec Kepler, non pas un espace abstrait d'hypothèses, mais bien un espace concret à travers lequel les planètes évoluent. Le songe, donc, que fait-il ensuite ? À quoi sert ce texte ? Il examine la façon dont le système solaire pourrait apparaître de la Lune. Et il met en œuvre cette fameuse astronomie lunaire annoncée par le titre. Il s'agit, vous l'avez compris, à la fois d'un récit de voyage lunaire et d'un traité d'astronomie lunaire, dans lequel Kepler développe des sujets précis et techniques, tels que la taille de la Lune, sa distance par rapport à la Terre, sa relation aux autres planètes, son climat, son atmosphère, ses caractéristiques géographiques et sa gravité. Le songe nous fait entrer dans la fiction par une série de seuils qui ont été bien étudiés par beaucoup d'historiens de la littérature ou des sciences. Le narrateur s'endort d'abord, c'est pour ça que ça s'appelle le songe, somnium, après avoir lu un livre de légende sur l'histoire de Bohème et après avoir contemplé les étoiles. Dans son rêve, deuxième seuil, il lit un autre livre dans lequel est racontée l'histoire de Duracotus et de sa mère, Philoxylde, une magicienne. Une série de mésaventures conduisent Duracotus dans l'île de Rven, où il apprend l'astronomie auprès du grand astronome Tycho Brahe, avant de rentrer chez sa mère, qui lui lègue son propre savoir en invoquant le démon de Levania, habitant de la Lune. Et là, il y a un aspect bien sûr un peu biographique pour Kepler, puisqu'il a lui-même fait ce parcours un peu initiatique en passant par l'île de Tycho Brahe. C'est par le récit du démon qu'on a accès à l'astronomie lunaire. C'est le démon qui nous raconte ce qu'on voit dans la Lune. Phénomènes astronomiques visibles, topographie, mais aussi animaux, plantes, habitants. C'est un monde étonnant que Kepler donne à voir. Je vous lis sa description rapidement. Les habitants de Privolva, c'est le nom qu'il lui donne, n'ont aucune demeure fixe, aucune habitation permanente. Ils parcourent en groupe tout le globe en une seule de leurs journées, les uns à pied, car leurs pattes sont bien plus grandes que celles de nos chameaux, les autres en volant, les autres sur des embarcations, suivent les eaux qui s'enfuient. S'il est nécessaire de s'arrêter quelques jours, ils se faufilent dans des grottes que chacun choisit selon leur espèce. L'enjeu ici est moins de décrire un autre monde qu'il ne connaît pas, que de proposer à l'imagination des lecteurs la vision d'un monde lunaire infiniment changeant et mobile, caractérisé par la fluctuation, par l'impermanence des phénomènes. Il imagine des villes, par exemple. Devant nos yeux se dressent les murailles des cratères, dont les ombres abritent des villes grouillantes. Une végétation monstrueuse croît et se flétrit en l'espace d'une journée lunaire. C'est donc l'image frappante d'une corruptibilité hyperbolique. Il n'y a pas seulement des changements dans la Lune, mais il y a des changements beaucoup plus rapides que ceux qu'on peut voir sur Terre. En décrivant ce monde, vous l'avez compris, Kepler détruit le fondement même de la physique d'Aristote. La postulation de deux physiques irréconciliables entre le monde sublunaire et corruptible de la Terre et le monde supralunaire et incorruptible de la Lune. Ainsi s'explique dans ce texte le recours à la fiction. Elle offre le moyen de composer une image frappante du cosmos copernicien. Elle mêle des techniques poétiques et des démonstrations astronomiques pour prouver, au sens rhétorique ancien de la preuve, l'hypothèse copernicienne. Si je veux utiliser un mot un peu barbare, on pourrait dire que le songe est l'hypotypose de l'hypothèse copernicienne, c'est-à-dire la description vive, la démonstration frappante d'une hypothèse. Alors le songe a une histoire extraordinaire, mais je ne vais pas m'y attarder trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui a suivi les développements, les épisodes de la carrière de Kepler. C'est un texte qu'il a réécrit de nombreuses fois, qui lui a valu des poursuites judiciaires. Sa mère a été enfermée, accusée de sorcellerie. On a cru qu'il parlait de sa mère en décrivant le personnage de la magicienne qui faisait des petits sacs d'herbe pour soigner les marins. Enfin, il a été en fait très ennuyé, ça a été une espèce de malédiction en fait, ce texte pour lui. Sa mère est morte en prison quand même, accusée de sorcellerie. On est en pleine époque de chasse aux sorcières. Et cette façon très propre à Kepler de mêler comme ça la magie, la fiction, la science, de parler en plus de copernicianisme à une époque où c'est pas tout à fait orthodoxe. Bref, tout cela explique que ce personnage, enfin que cet autre, j'en parle comme un personnage, vous voyez, il est fascinant, mais explique qu'il ait pu à ce point-là subir des attaques suite à ce texte. Donc, la fiction, dans notre cas, permet de construire une image forte, mais aussi d'adopter un point de vue distancié, afin de décrire à nouveau le cosmos. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je me suis un petit peu attardée sur ce texte, c'est qu'il est à l'origine d'une poétique, pourrait-on dire, d'une façon d'écrire très spécifique au XVIIe siècle. Après Kepler, on va avoir tout un tas de voyages cosmologiques, je vais aller plus vite, mais qui héritent, d'une part, d'une tradition qu'on pourrait dire lucianesque, hein, vous savez, le premier envol dans la Lune, c'est chez Lucien. Tradition aussi qui reprend des textes de la Renaissance italienne, comme le Orlando Furioso de l'Arioste. Enfin, on a toute une tradition là que Kepler reprend, mais cette tradition littéraire est réactivée, si vous voulez, par le débat cosmologique du temps, par la nécessité de trouver de nouveaux arguments, encore et encore de nouveaux arguments en faveur du copernicianisme. Kepler, il me semble, modifie en fait assez profondément la relation de la fiction et du savoir ici. Il participe de la constitution d'un nouvel usage philosophique et scientifique de la fiction. Bien sûr, il se recommande de Plutarque et de Lucien. Il affirme qu'il avait déjà trouvé chez ces auteurs-là un usage cognitif de la fable, mais en fait, l'articulation qu'il propose est nouvelle. Le mythe servait autrefois de voile à un savoir caché, hein, c'est l'ancien usage de la fabula dans toute la tradition médiévale. Ici, au contraire, la fiction sert à mettre en scène, à visualiser une expérience qui n'est pas réalisable sur Terre, en imaginant le spectacle du monde à partir de la perspective lunaire. On a beaucoup dit que l'œuvre de Kepler n'avait pas eu vraiment d'influence en son temps, malgré l'importance qu'elle a pour l'histoire des sciences. Mais en fait, la réception du songe, toute l'histoire de la reprise des thèmes du songe, prouve qu'il y a eu un vaste lectorat de ce texte à travers toute l'Europe. Je vous en donne quelques exemples très rapidement. Un savant anglais très sérieux, John Wilkins, des gens comme Fontenelle, Cyrano de Bergerac, Huygens, tout cela reprennent en partie ce que Kepler a mis en place, cette façon d'utiliser la fiction pour faire voir, pour prouver, pour philosopher, pour imaginer. En fait, on peut trouver deux veines à partir de Kepler et de Galilée qui se développent. La première, très savante, débat de la nature de la Lune, et je reviendrai à ça après, c'est John Wilkins, le savant anglais dont je vous parlais, puis Pierre Borel en France, ils reprennent toutes les interrogations de Kepler au sujet de la lumière, de la nature opaque ou poreuse ou transparente de la Lune, de la présence d'eau. Bon, ils imaginent toutes les différentes façons de s'y rendre, à l'aide de démons, ça Kepler l'avait dit, au moyen d'un chariot volant tiré par des oies, grâce à une machine volante. Enfin, voilà, donc on est dans des textes, des traités là, A Discourse Concerning a New World on Another Planet, publié en 1638 en Angleterre. Et en même temps, vous le voyez, on a l'imaginaire des voyages maritimes qui revient. On a l'idée qu'on peut aller, au moins par la pensée, voir ce qui se passe dans cette nouvelle planète, comme dit Wilkins, qui est la Lune. La deuxième veine, plus légère, mais non moins polémique, met en scène ce voyage devenu techniquement possible, si vous voulez. Techniquement possible parce qu'en fait, ça dépend ce qu'on entend par possible, on pourra revenir à cette définition dans la discussion, mais ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a plus toutes les frontières des éléments dont je vous parlais dans la théorie de Ptolémée, on peut traverser le ciel, on pourrait en tout cas, si on avait les instruments, les véhicules qui nous permettraient de le faire. Et par exemple, Godwin imagine, c'est lui qui a l'idée de convoquer des oies, de les dresser et d'utiliser le fait que les oies sont des oiseaux migrateurs qui partent vers le chaud et reviennent. Et donc il espère non seulement partir dans la Lune, mais en revenir. Il le dit bien dans son texte, l'idée n'est pas de rester là-bas. Et donc les oiseaux migrateurs offrent un moyen assez ingénieux d'aller-retour, si vous voulez, vers la Lune. En tout cas, dans son texte, Godwin se sert de Kepler, se sert de toute la tradition scientifique sur les nouvelles théories qui se font jour à l'époque, et il se moque donc de cette frontière de feu entre les mondes sublunaires et supralunaires. Son héros Gonzalès, celui qui est porté par les oies, dit qu'il ne voit pas de flamme en arrivant sur la Lune. Donc voilà, on a cette façon comme ça, par la fiction, de se moquer, bien sûr, des anciennes hypothèses. C'est un cosmographe anglais, Peter Hayline, qui explique cette métamorphose du statut de la Lune. C'est plus un simple objet de rêve, mais c'est un nouveau territoire à conquérir. Je cite Hayline parce qu'il est intéressant. Le nouveau monde dans la Lune était d'abord une découverte de Lucien. Il est le premier à avoir trouvé le nouveau monde, dont il nous donne une image spectaculaire dans l'un de ses dialogues. Mais récemment, ce monde qu'il avait imaginé et qu'il donnait comme un pur produit de l'imagination est devenu le sujet d'un débat plus sérieux. Certains se sont employés à rendre probable l'hypothèse d'un autre monde dans la Lune, habité comme celui-ci par des personnes de langues, de coutumes, de gouvernements et de religions diverses. Et bien plus, ils ont proposé des moyens pour créer des liens et permettre le commerce entre ce monde-ci et ce monde-là. Mise à la mode donc dès la Renaissance, l'idée d'habitants dans la Lune est naturellement encouragée lorsque Galilée décrit la Lune comme semblable à la Terre. Vous voyez, on a toute une tradition littéraire qui brusquement passe du fictionnel au probable, au possible, avec des glissements qui ont lieu selon les types de textes auxquels on a affaire. Je passe parce que je vois que le temps passe très très vite et 20 minutes il reste, d'accord. Dans cette vogue des voyages lunaires, je dis quand même un mot de Cyrano de Bergerac, c'est l'exemple le plus connu. L'autre monde où les États et empires de la Lune et du Soleil qui paraît en 1657. Cyrano n'était pas un homme de science, contrairement à Kepler, hein, mais il fréquentait le milieu de savants de son temps. Il a d'ailleurs écrit, dit-on, la question est toujours discutée, mais un fragment de physique qui défend la physique cartésienne et qui prouve donc son intérêt pour les questions scientifiques de l'époque. Comme chez Kepler et comme chez Godwin, Cyrano emprunte à deux genres sérieux, les récits de voyage des grandes découvertes et les traités scientifiques. Mais son texte offre un épisode vraiment spectaculaire de l'envol du narrateur au-delà de l'atmosphère terrestre, en même temps que sa justification théorique, l'absence d'attraction terrestre au-delà d'une certaine distance, qui est une théorie magnétique qui est très en vogue à l'époque, hein, qui est héritée d'un texte de Gilbert qui s'appelle « De magnete ». Donc, juste un mot sur Cyrano, ce qui est assez intéressant, c'est que là encore, on a un moyen totalement fantaisiste pour s'envoler, qui en même temps se sert constamment de théories valides, connues de l'époque. À la fin du XVIIe siècle, l'idée de la pluralité des mondes, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire cette idée de diverses planètes habitées, n'est plus seulement un conte, ni une fiction baroque. L'idée plaisante est devenue plausible avec le développement des télescopes et l'avènement de la nouvelle cosmologie. Elle a acquis en somme le statut de conjecture, et là encore, glissement intéressant pour nous entre les notions de fiction, d'hypothèse et de conjecture. La révolution astronomique engagée par Kepler est tout autant, me semble-t-il, une révolution poétique. La fable lunaire qu'il invente n'est pas seulement un envol métaphorique vers un nouveau ciel de la connaissance. Elle n'est pas non plus le lieu fabuleux d'une satire ou d'une utopie. Elle est bien plutôt l'extension du domaine de la physique à tous les astres flottant dans l'espace du ciel, comme autant d'îles. Si jusqu'alors le motif du vol aérien désignait immédiatement les textes qu'il utilisait comme fiction, Kepler déplace ce motif en explorant la matérialité du vol. De l'envol philosophique et du voyage lunaire fabuleux, on est ainsi passé à ce que j'aimerais appeler une expérience de pensée, mais en général, on me critique beaucoup sur cette formule, donc je la livre à la discussion également. Une expérience de pensée physique qui confère à la fiction un poids ontologique que la tradition classique et renaissante ne lui connaissait pas. Je vais aller plus vite sur Huygens, mais c'est important de faire un saut, enfin pas tout à fait un saut, puisqu'on a parcouru un peu le XVIIe siècle, de 1609 aux années 30 en Angleterre, ensuite 57 avec Cyrano. J'en arrive à la fin du siècle avec Huygens. Et il faut bien savoir que ce n'est pas non plus l'époque de l'âge d'or de l'usage de la fiction en science. Il n'y a pas que des usages positifs, où il n'y a pas que des savants qui décident d'ouvrir leurs textes et leurs méthodes à la fiction. Puisque cet usage de la fiction pose quelques problèmes, suscite quelques critiques, et notamment critiques donc d'un astronome hollandais, Christian Huygens, qui entreprend de distinguer très clairement le discours scientifique d'un discours du savoir un peu plus baroque qui accueillerait la modalité fictionnelle, qui accueillerait la fiction. Je cite Huygens, comme vous voudrez. Il est vrai que dès l'origine de l'astronomie, il s'est vu des gens osant dire qu'il y a d'autres mondes dans les étoiles, d'innombrables mondes même. Quant aux auteurs postérieurs tels le cardinal de Kew, Bruno et Kepler, dont le dernier écrit que tel était aussi le sentiment de Tycho Brahe, ils ont sans doute attribué des habitants aux différentes planètes. Mais ni les uns ni les autres n'ont apparemment fait une sérieuse recherche sur ces habitants. Et la même remarque s'applique à l'auteur français, c'est Fontenelle, qui a récemment publié un ingénieux dialogue sur la pluralité des mondes. Quelques-uns d'entre eux ont seulement inventé, par plaisanterie, certaines fables sur les peuples de la Lune, lesquelles ne sont pas beaucoup plus vraisemblables que celles de Lucien que vous connaissez. Donc vous le voyez là, en Huygens s'écarte des fables de ses prédécesseurs, s'éloigne de cette façon d'écrire qu'avait mise en place Kepler et réclame qu'on reconnaisse un statut logique à ses conjectures. Contre les fictions de ses prédécesseurs, Huygens appelle de ses voeux une méthode fondée sur l'enchaînement systématique des conjectures. Il exclut la fiction pour essayer de constituer un discours scientifique indépendant. Indépendance qui va s'affirmer tant au niveau de la réception et du lectorat choisi. Il dit vraiment que les textes qu'il écrit sont écrits en latin, c'est pas pour n'importe qui, on peut pas les lire comme ça, surtout pas à des femmes par exemple, enfin j'exagère, mais il y a l'idée qu'on referme un tout petit peu à l'époque le lectorat à un lectorat de savants. Le type de discours plus ouvert proposé par Kepler n'est plus jugé comme adéquat. Indépendance du discours d'autant plus nécessaire que la distinction entre conjecture et fiction est parfois ténue. Huygens le reconnaît lui-même. Et on l'a vu dans ces différents glissements entre conjecture et hypothèse selon les textes. Pourquoi c'est si important à la fin du siècle de reséparer un petit peu les choses? Eh bien, parce que le discours cosmologique rencontrait un problème comparable à celui de la littérature de voyage au siècle précédent. Il n'y a pas de critère textuel qui permet de garantir la distinction entre un récit fictionnel et un récit non fictionnel. On peut faire un récit de voyage qui a l'air vrai et qui ne l'est pas. Et c'est cette ressemblance formelle qui explique la nécessité d'une exclusion de la fiction hors du discours scientifique. Dans le Cosmotéoros, je vais vous dire dans un instant ce que c'est exactement, c'est un petit peu son dernier grand texte d'astronomie, Huygens met en place un type de discours non fictionnel qui utilise la forme narrative et même parfois on le verra les ressources de la figuration. C'est une construction conjecturale mais qui refuse la fiction à la mode de Kepler. En fait, le Cosmotéoros est en train d'essayer de définir l'hypothèse scientifique, moderne si l'on veut, contre son assimilation à la fiction. Mais pendant toute une période, les deux histoires, histoire de l'hypothèse astronomique et histoire de la fiction littéraire ont été quand même très proches. Hein. On peut suivre comme ça cette proximité dans les textes. Mais chez Huygens, on les redistingue très clairement. Point de végétation géante, comme chez Kepler. Hein. Les habitants des autres planètes, s'il y en a, restent irreprésentables pour Huygens. Ils ne sont que concevables. Autrement dit, ils échappent à l'imagination, mais ils peuvent être saisis par la pensée. C'est rationnel, toute cette histoire chez Huygens, c'est pas imaginaire. C'est ainsi qu'il faut comprendre son refus des fictions et des visions de Kepler, ainsi que son insistance sur le caractère strictement philosophique de son traité. C'est bien contre l'imaginaire cosmologique de toutes les fictions du siècle qu'écrit Huygens. Sa démarche apparaît clairement dans la reprise de nombreux motifs hérités du songe, reprise suivie d'une réfutation des conjectures jugées les plus fantaisistes de Kepler. Il fait un tri radical, donc, entre ce qui peut être accepté comme méthode valable pour construire des conjectures vraisemblables et ce qui doit être au contraire congédié comme imagination fallacieuse. Je vous donne juste un tout petit exemple du paradoxe quand même de cette situation, de cette position de Huygens. L'exemple des lunariens. Huygens, et c'est l'un des acquis de ses observations par rapport aux générations antérieures, peut affirmer qu'aucune créature vivante ne vit dans la Lune. À la fin du XVIIe siècle, on le sait. Hein. Malgré un fort préjugé en faveur de l'existence des planéticoles, comme il les appelle, dans chaque planète, il a l'idée qu'il faut absolument que tout soit peuplé pour qu'on comprenne l'égalité des planètes et la bonté du créateur. Mais il est bien obligé d'admettre, d'après ses observations, que la Lune n'a ni eau ni atmosphère, et donc aucune vie. Mais cette conclusion ne l'empêche pas d'utiliser la perspective d'habitants lunaires afin de décrire la Terre vue du ciel. Je cite le passage où il fait cet intéressant tour de passe-passe. De cette position des lunes par rapport aux planètes correspondantes résulteront des spectacles étranges pour leurs habitants, dont il est vrai, il est extrêmement incertain qu'ils existent, mais qui sont ici placés sur elles à titre de fiction, dit-il lui-même. Il suffira de parler des indigènes de notre lune. Il sait qu'ils n'existent pas, mais il les place quand même à titre de fiction, dit-il, pendant un petit moment, pour nous permettre de nous mettre à leur place. Pour eux, son globe est divisé en deux hémisphères de telle manière que les habitants de l'un jouissent toujours de la vue de notre Terre, tandis que ceux de l'autre ne l'aperçoivent jamais. Excepté que quelques-uns d'entre eux, vivant vers les bords des deux hémisphères, perdent et recouvrent sa vue alternativement. Comment comprendre la référence à ces lunariens dans un traité qui démontre l'impossibilité d'habiter dans la Lune ? Eh bien, les lunariens sont, me semble-t-il, une simple figuration d'une position théorique. Une fiction, selon l'expression de Huygens lui-même, mais d'un nouveau genre. Ils fournissent une perspective. C'est une stratégie, en fait, pour étendre notre propre champ de vision. Mais ce ne sont ni des personnages, évidemment, au sens littéraire du terme, ni même une hypothèse sérieuse pour l'astronome. À l'inverse des créatures incarnées décrites par Kepler, les habitants de la Lune évoqués par Huygens sont une pure fonction, un outil dans la démonstration. Des personnages conceptuels, si l'on veut reprendre l'expression de Deleuze et Guattari. Des personnages débarrassés de leur costume et limités à leur fonction. De fait, les habitants lunaires et le voyageur cosmique de Huygens ressemblent davantage aux démons de Maxwell et aux voyageurs d'Einstein, dont je vous parlerai en conclusion. Il ressemble davantage donc à ces personnages d'expérience de pensée de la science moderne qu'au Duracotus de Kepler ou au Dirconat Cyrano de Bergerac, qui eux sont des personnages en costume, si vous voulez, encore une fois. Mais il est tentant de déceler une filiation, peut-être, et de poursuivre la généalogie. Les personnages conceptuels des textes scientifiques contemporains ne seraient-ils pas les héritiers des premiers voyageurs des fictions lunaires ? En grec, le théoros désigne le délégué envoyé par la cité afin de consulter et de rapporter des oracles. Et en effet, dans le cosmothéoros, il y a bien l'idée d'un secret à transmettre à un public choisi, à laquelle correspond la figure du délégué, de l'ambassadeur du cosmos. Ça nous rappelle le messager des étoiles de Galilée, bien sûr. D'où la possibilité d'interpréter la forme narrative récurrente du discours cosmologique en termes sémiotiques. Et là, c'est un peu technique, mais en gros, si vous voulez, on peut comprendre ce récit d'aller et retour, de la Terre à la Lune et retour, ou de la Terre à Saturne et retour, comme une façon de rapporter des nouvelles venues de loin. C'est un petit peu comme ça que le philosophe des sciences Bruno Latour décrit la circulation de l'information dans un article d'Einstein, par exemple. Et moi, ce qui m'a amusée, c'est de retrouver cette structure sémiotique. On s'éloigne de ce qu'on connaît et on rapporte de l'inconnu. On le retrouve exactement chez les astronomes du XVIIe siècle. Donc, mon dernier point, c'est essayer de tirer un petit peu quelques conclusions plus théoriques sur ces textes. Qu'est-ce qu'ils nous disent du rôle possible de la fiction dans la science ? La permanence de la fiction, du récit, invite peut-être à remettre en question certaines des dichotomies par lesquelles on tente parfois de distinguer littérature et savoir. Vous les connaissez ces dichotomies, imagination contre raison, fiction contre non-fiction, figurale contre littérale. Et en fait, quand on regarde ces textes étranges, je l'admets, de près, il apparaît que ces dichotomies occultent les mécanismes communs aux deux discours. Et en même temps, elles ne nous permettent pas vraiment de saisir la spécificité de chacun de ces discours. Donc là, je vais essayer de... Mais bon, c'est un travail de longue haleine, je ne prétends pas du tout avoir réussi, mais j'aimerais essayer à la fois de sortir de ces oppositions et en même temps essayer de redéfinir un petit peu qu'est-ce qui fait la spécificité de la fiction littéraire et de cet usage scientifique de la fiction. Parce que l'envol du personnage de Cyrano de Bergerac, celui qui est là, n'a pas le même statut que la fonction que le personnage... du Théoros dans Huygens, qui est plus une fonction, je vous le disais. Le point commun, en tout cas, de tous ces textes, c'est la présence de figures. Ni l'expérience de pensée du songe, ni le raisonnement analogique du Cosmothéoros ne peuvent se passer de ces personnages conceptuels qui sont les supports d'un déplacement optique. Là, on est à peu près d'accord sur le point commun. Mais la différence de ces textes avec les fictions proprement littéraires réside dans la manière dont ces différentes figures sont mises à l'épreuve, mises en œuvre et déployées. Ainsi, dans le songe de Kepler, ce sont les notes qui permettent de situer la fiction du voyage lunaire et de faire du démon de Levania, le démon dont je vous parlais, le porte-parole de la nouvelle astronomie. Les notes servent à arrimer, si vous voulez, le discours fictionnel à un discours scientifique, constamment. C'est cet arrimage, c'est cet encadrement qui construit le discours scénographique de Kepler, comme discours référentiel plutôt que fictionnel. C'est une question de proportion, en fait. Qui encadre quoi ? Quel est le discours premier ? Pour le dire autrement, la circulation de l'information et du savoir et son contrôle à chaque niveau textuel est, me semble-t-il, ce qui caractérise les textes théoriques par rapport aux textes fictionnels vraiment littéraires. Il y a des enchaînements assez lâches dans les textes fictionnels. Par exemple, chez Cyrano, on part dans la Lune, mais rien ne nous dit vraiment comment on revient au niveau zéro de la référence, comment on revient sur Terre, alors qu'il y a des enchaînements tenus et disciplinés, en quelque sorte, dans les textes scientifiques, qui garantissent la préservation de l'information d'un niveau à un autre. Par exemple, chez Huygens, le discours savant est premier, et la voie auctoriale garantit la préservation des données d'un plan de référence à un autre. Si la fiction intervient, c'est très ponctuellement, comme support de la réflexion, comme figuration du processus optique. Chez Kepler, il y a une continuité d'un plan de référence à l'autre qui est assurée par les notes, comme je vous le disais, par un dispositif d'encadrement qui permet de circonscrire nettement la fiction. C'est donc en définitive à la fois les lieux de la fiction et son énonciation, comment elle est encadrée, comment elle est amenée, qui permettent de situer les textes selon des tendances fictionnelles ou factuelles. Et ça me paraît important de parler de tendance, encore une fois, plutôt que d'essayer de trouver une rupture définitive. On a à cette époque-là, vous l'avez vu avec les exemples que je vous ai donnés, des textes qui sont, on pourrait dire, factualisants, qui vont vers le fait, vers la construction d'un fait scientifique, et puis des textes qui sont plus fictionnalisants, qui se servent d'un savoir, mais qui ont tendance à aller vers la fiction. Il me semble important de sortir de la bifurcation de la littérature et de la science, hein, de l'imagination et de la raison. Puisque si on reste dans cette bifurcation, la fiction perd sa légitimité à dire quelque chose du monde. Elle perd, autrement dit, toute capacité cognitive et épistémique. Quant au discours scientifique, lui, il n'est pas beaucoup mieux loti si on le sépare de l'imagination, puisqu'il est privé des ressources de l'imagination, des techniques littéraires, sans lesquelles il ne peut pas se déployer. L'intérêt de ces petits textes astronomiques, hein, c'est de faire éclater, en quelque sorte, cette fausse répartition des tâches entre le littéraire et le scientifique, et de montrer combien les deux restent des modes de véridiction parallèles, même s'ils ne se confondent pas. Il me reste quelques minutes pour faire une petite ouverture sur la science contemporaine. Hein, donc, qu'en est-il aujourd'hui de la rencontre de la science et de la fiction ? Là, je m'engage sur un terrain que je connais encore moins que le reste, mais c'est pour ouvrir la discussion. Dans la science contemporaine, vous le savez, le terme de fiction est utilisé par les chercheurs pour désigner, par exemple, des entités non observables, comme les particules élémentaires, telles que les électrons. Ils utilisent le terme aussi parfois pour parler de conventions utiles dans les calculs. Le gaz idéal, le fluide parfait sont nommés fictions par les scientifiques contemporains. Pour les philosophes des sciences, le terme de fiction recouvre d'autres types de constructions imaginaires. Selon leur courant philosophique, ils considèrent comme fiction les expériences de pensée, je vais y revenir, c'est Einstein, les modèles, les personnages conceptuels, voire pour les plus extrêmes d'entre eux, les théories elles-mêmes. Donc, la fiction, c'est un accès paradoxal à la vérité dans le cas des expériences de pensée, c'est une suspension volontaire de l'incrédulité dans le cas des hypothèses, c'est un instrument d'abstraction dans le cas des modèles. En fait, on retrouve là les principales définitions proposées par les théories contemporaines de la fiction. Et si on accepte d'élargir, nous littéraires, on tient beaucoup à nos concepts à nous, mais si on accepte un instant d'élargir ce terme de fiction à tous ces usages dont je viens de parler, la fiction, c'est un mécanisme de pensée, une opération mentale par laquelle on s'abstrait provisoirement et volontairement de ce qui nous entoure pour en explorer d'autres potentialités. Les démons de Laplace et de Maxwell, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, sont utiles dans les démonstrations parce qu'ils sont dépourvus des limites humaines de la mémoire et du temps. C'est intéressant, on retrouve là des démons d'ailleurs, comme celui de Kepler. Le chat de Schrödinger, qui est très connu, il est à la fois mort et vivant, ce qui démontre qu'un objet quantique a des propriétés contredisant notre expérience quotidienne. Ce sont tous, mais je ne m'avancerai pas plus loin parce qu'il y a Christine Baron dans la salle, des personnages fictionnels qui agissent à l'intérieur d'une expérience de pensée. Métamorphose, don de double vue ou d'ubiquité, les personnages conceptuels sont soumis à rude épreuve. Et ce n'est pas le costume qui fait leur singularité par rapport aux personnages de la littérature, mais leur fonction, leur parcours, leur transformation au cours des obstacles et des épisodes qu'ils traversent. Personnages conceptuels et expériences de pensée interviennent à différentes étapes de la construction des théories. De leur émergence, par exemple, c'est Galilée qui imagine des papillons sur un bateau, à leur diffusion. Et là, c'est Paul Langevin qui illustre la théorie de la relativité restreinte d'Einstein par le fameux paradoxe des jumeaux, hein, selon lequel un homme envoyé dans l'espace à la vitesse de la lumière revient sur Terre plus jeune que son frère resté sur Terre. Je voudrais finir par ce point qui me paraît important. C'est bien un pacte de lecture singulier qu'induit la fiction en science. Elle implique un encadrement sémantique fort, un marquage précis du début et de la fin du jeu. Son fonctionnement permet de comprendre le discours scientifique non comme un miroir du réel, mais bien comme un effort de représentation et d'interprétation du monde avec des outils fragiles, changeants, dont on peut retracer l'histoire. c'est dire que la fiction souffre de rester une catégorie simplement négative, hein, le fictif, anhistorique. Encore une fois, elle est historique, on peut retracer l'histoire de la fiction. Elle est opaque comme catégorie. Finalement, elle n'est l'autre de la science que lorsqu'elle est réduite à la catégorie du faux et lorsqu'elle sert de faire valoir à une science en cours de légitimation. Il y a au moins deux raisons, il me semble, pour finir, de vouloir aujourd'hui poursuivre cette démarche et rapprocher science et fiction. Pour les théoriciens de la littérature, l'enjeu est d'affirmer, vous l'aurez compris, les capacités cognitives de la fiction et par-delà, on en a besoin en ce moment, de se rassurer un peu sur le rôle de la littérature. Je crois qu'il y a ça dans beaucoup d'études, dans certaines études sur la littérature et le réel, la littérature dans le monde, qu'est-ce qu'on fait de la littérature, voilà. Mais du côté des philosophes et des historiens des sciences, le rapprochement permet de redéfinir la science également, non plus comme un processus inexorable de révélation de la vérité, mais comme fabrication exigeante, risquée, des faits. Je vous remercie.
Merci à vous. On a 20 minutes pour les questions. Ça ira.
Je pense que quand vous parlez d'une espèce de continuum là, entre vos textes, c'est d'autant plus intéressant que je crois qu'on ne peut pas, si vous voulez, penser à cette époque-là, la dichotomie, parce qu'elle n'est tout simplement pas mise en place. C'est que la notion de belles-lettres, le signe apparaît entre 1620 et 1630. Hein. Et il faut 30 ans, 40 ans pour que petit à petit, par exemple en 1680 ou 1694, les premières définitions apparaissent dans le dictionnaire de Richelet, par exemple. Hein. D'autre part, l'antonymie entre les lettres et les sciences est absolument impensable. Au XVIIe siècle, il faut 1730 pour que ça commence. Et finalement, la notion de littérature, elle aussi, ne commence vraiment à épouser un peu la référence des belles-lettres que vers 1730 tout autant. Hein. Et moi, ce que j'ai aperçu, c'est que les premiers discours sur l'utilité respective des belles-lettres par rapport aux sciences, c'est encore des discours académiques de la première, du deuxième tiers du XVIIIe siècle. Et c'est en ce sens-là, je crois, que ce que vous avez montré est assez probant, c'est-à-dire qu'il faut retirer ces catégories pour arriver à penser cet ensemble textuel comme un continuum. Et sinon, il y a une forme de révisionnisme épistémologique qui consiste à plaquer des catégories qui, en fait, moi, j'ai vraiment trouvé dans ma thèse, puisque ça porte là-dessus, ça montre à l'évidence qu'on plaque vraiment des catégories qui sont des impensées encore à cette époque-là. Donc merci, c'était intéressant.
Oui, absolument, mais je vais vous reposer une question parce que en fait, vous parlez de quelque chose qui est très intéressant que moi j'ai pas vraiment prolongé parce que ça dépassait le cadre de ma recherche. En fait, c'est l'histoire de cette bifurcation. Et vous parler de 1730, j'aimerais en savoir plus. Pourquoi 1730? Moi, j'ai essayé de la dater, cette bifurcation, parce qu'elle est passionnante. À partir de quand, dans les textes, on parle de science et de belles lettres? À partir de quand, dans les faits, pas seulement dans les dictionnaires, mais à partir de quand les écrivains, comme on ne les appelle pas encore, se situent le long de cette frontière? J'ai trouvé l'un des premiers textes chez Vico. À peu près dans ces années-là, 1720, qui commence à dire, à regretter déjà, au moment même où ça se met en place, à regretter cette séparation et à dire, oh là là, on se prive d'une moitié de nos capacités en les divisant. Et c'est une histoire que je n'ai pas faite, à mon avis, qui est à faire, avis aux étudiants dans cette salle, l'histoire de cette bifurcation, l'histoire de cette séparation très précise qui, effectivement, court tout au long du XVIIIe siècle, peut-être. Enfin,
ça commence, je l'ai fait une bonne partie dans ma thèse d'État. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez d'abord le fait que l'Académie des sciences était destinée au départ à être totalement encyclopédique et que ce n'est que par une sorte de hasard que finalement elle s'est centrée vers les sens de calcul et d'observation. Donc il y avait une unicité qui était au départ postulée. D'autre part, ensuite, il y a toutes ces académies de province qui naissent au XVIIe siècle et qui, de plus en plus, en France, crée une classe de philosophie expérimentale et une classe de belles-lettres. Et donc là, si vous prenez toute la série des académies de province qui se créent là dans cet espace entre 1635 et 1780, petit à petit, on les voit toutes en France épouser petit à petit le modèle parisien de la petite académie des inscriptions et médailles et de l'académie des sciences. Et ce modèle, il est, d'un certain point de vue, c'est déjà le prodrome de ce qui sera... les débats de 1730 dans certaines académies. Il y a un prix d'académie sur combien les sciences sont redevables aux belles-lettres, par exemple, aux alentours de 1730.
Donc pour vous, c'est institutionnel et académique, en fait, cette séparation?
Je pense qu'en France, le modèle des académies parisiennes a beaucoup joué pour cette dichotomie, alors qu'en Allemagne, par exemple, à Berlin, ou même en Angleterre, aussi bien le lexique que la réalité du travail scientifique ne se fait pas avec des catégorisations de ce genre. Il y a quatre classes à l'Académie de Berlin, philosophie expérimentale, philosophie spéculative. Il n'y a pas ce modèle dichotomique. Et quand Berlin se crée, le modèle parisien est présenté comme un cas qu'on n'a pas épousé à Berlin, qu'on n'a pas voulu peut-être épouser non plus.
Merci.
Moi, je voulais évoquer un cas que tu connais certainement, qui est celui dont parle Fernand Aline dans Les structures rhétoriques de la science, qui est un cas de transfert qui fonctionne. Celui où, finalement, Ariotte, apercevant les taches lunaires en 1610, ne sait que faire de ce phénomène. Tout simplement, au même moment, je crois, ou deux ans plus tard, Galilée l'interprète correctement, ce phénomène des taches lunaires, parce que, tout simplement, il dispose, on dispose en Italie de traités concernant les arts de la représentation, en particulier la peinture, et donc l'invention de la perspective, finalement, va lui permettre, le truchement de la perspective va lui permettre d'interpréter correctement l'image. Alors, ça, c'est un cas assez satisfaisant, au fond, pour le littéraire ou pour le spécialiste des sciences humaines ou des arts, parce que ça marche bien. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans l'histoire des sciences qui auraient pu légitimer précisément le refus de ce partage qui a lieu apparemment au XVIIe siècle? Voilà.
Alors, avant de te répondre, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur l'exemple que tu donnes, parce qu'en fait, c'est l'objet d'un article qui est extraordinaire, que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Galilée critique d'art, qui est l'article de Panofsky, où Panofsky explique qu'en fait, Galilée n'aurait pas pu interpréter cette image, qui en fait n'est pas du tout fidèle à ce qu'il voyait, puisqu'on a le télescope de Galilée, donc on est capable de savoir ce qu'il voyait. C'était beaucoup plus flou, imprécis que ça. Et d'ailleurs, on a étudié très précisément les cratères qu'il dessine. Ils sont surdimensionnés pour nous aider à voir, nous. Hein. Mais Panofsky explique qu'effectivement, sans ses connaissances en perspective, Galilée n'aurait jamais pu interpréter correctement ce qu'il voyait et donc dessiner aussi clairement ces ombres et ces cratères. Alors, juste pour reprendre ta question, un autre cas de transfert qui fonctionne, c'est-à-dire, je ne suis pas sûre d'avoir vu exactement... j'étais partie dans Galilée, mais je...
Un autre cas de modèle emprunté à la littérature ou aux arts qui s'avère finalement pertinent en termes de transfert paradigmatique pour comprendre un phénomène scientifique.
Il me semble que ce que fait Kepler, c'est ça, enfin, c'est ce que j'essaie de montrer, ouais. Que le voyage lunaire, c'est l'un des genres les plus anciens de la littérature. C'est même censé être le début de la fiction avec Lucien. Donc là, on a vraiment un transfert très, très direct. Il utilise un genre littéraire et il le transfère pour démontrer... pour apporter de l'eau à son moulin et pour faire ce qu'il n'arrive pas à faire par ailleurs. Et quand on lit Le songe de très près, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il dit très clairement en préface, voilà, j'ai tout essayé pour convaincre ces idiots d'anticoperniciens, mais il n'y a rien à faire. Il ne reste plus que le songe, il ne reste plus que ce déplacement-là, que ce genre-là. Donc finalement, on pourrait dire que tous les... tous les textes un petit peu que j'ai essayé d'étudier sont des transferts réussis, puisque les Coperniciens remportent l'adhésion, je pourrais dire, au milieu du siècle à peu près. À l'époque où Huygens s'écrit, tout le monde est d'accord, il n'y a plus de débat. Hein. Donc le débat, vraiment, il y a encore un ou deux géocentriques bizarres en Pologne. voilà. D'ailleurs, c'est des gens qui... Enfin bon, c'est Hevelius, c'est des gens comme ça, et c'est un peu des excentriques, mais en gros, toute l'Europe est convaincue. Donc, le transfert a fonctionné.
Oui, les textes, si j'ai bien compris, les textes dont vous parlez contribuent plutôt à la diffusion des idées, en quelque sorte, une reformulation qui est presque, enfin, ce ne serait pas une vulgarisation, bien sûr, parce que là, je ferais ce que Philippe dit qu'il vaut mieux éviter de faire. Hein, je plaquerais une catégorie ou un type de discours de façon inappropriée. Est-ce que vous avez par ailleurs l'exemple de fictions qui ont pour fonction première l'élaboration de la pensée et de la catégorie vraiment d'une façon fictionnelle comme étant d'abord le moyen d'objet et d'approche de l'étude, c'est-à-dire avant qu'il y ait toute autre forme de discours ou d'expérience du fait dont on parle?
Alors oui, ça c'est la question la plus intéressante qui est pas évidente. Alors quand même, je tiens à dire que c'est pas du tout de la vulgarisation, c'est-à-dire que dans le cas de Kepler, dans le cas de Fontenelle, oui, enfin même si c'est discutable, dans le cas de Huygens, pas tellement, parce qu'en fait on est en tout cas c'est de la disputatio. Oui, c'est il y a un, voilà, on diffuse une idée qui est pas du tout acceptée. Mais il me semble que c'est plus que de la diffusion des idées. Si on prend au sérieux le songe, c'est vraiment une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'il fait avec ce texte ce qu'il ne fait pas ailleurs. J'ai tout essayé pour convaincre. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines des théories de Kepler se développent par le songe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il me paraît important de ne pas mettre à part ce texte, comme souvent les historiens des sciences l'ont fait, le mettre à part du grand corpus keplérien, qui est le Mysterium ou l'Astronomia Nova ou la réponse à Galilée. Vraiment, ça en fait partie. Et il y a certaines notes du songe qui parlent, par exemple, de la théorie. Toutes les théories optiques de Kepler ne sont pas dans la dioptrique. Il y en a certaines qui sont vraiment là sur la théorie des éclipses, notamment, puisqu'il se sert de cette théorie des éclipses pour expliquer le passage des démons de la Terre à la Lune. Il y a des choses qui sont spécifiquement développées dans ce texte. Donc, je ne dirais pas que sur tous les aspects scientifiques du songe, bien sûr, il a besoin de la fiction, mais il y a certains aspects qui lui permettent d'avancer, en tout cas, dans sa réflexion cosmologique. Et de même, chez Huygens, on n'est pas vraiment dans une diffusion, dans une vulgarisation. Il a commencé à écrire le texte en français, il arrête et il le réécrit en latin. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout envie de diffuser en langue vernaculaire, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est de faire son testament astronomique, dans lequel il développe toute une idée plus philosophique que scientifique, mais il a besoin de ce déplacement fictionnel à travers l'espace copernicien pour démontrer l'égalité des planètes. C'est presque un texte politique et philosophique. Donc là, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais il y a un usage de la fiction qui est quand même plus que, ou avant, si vous voulez, s'il y a une espèce de chronologie comme ça, qui est avant la diffusion, qui est vraiment au niveau de ce que Fernand Alline appelle l'abduction, c'est-à-dire la construction des hypothèses. Et les hypothèses elles-mêmes, à un certain niveau, peuvent être interprétées comme un certain type de fiction. On pose une proposition et puis on voit ce qui en découle.
Merci. Moi, j'ai une question qui n'est pas du tout une question de spécialiste, pour le coup, et qui est même une question un peu bête, mais c'est, tu as parlé des voyages au moyen des démons. Ensuite, tu as parlé des voyages grâce aux oies. Et dans le texte sur les démons, c'était assez frappant de voir que, bon, c'est des démons, mais quand même, ils se soucient du fait qu'on risque d'avoir froid et qu'on risque de ne plus respirer. Moi, de mon point de vue très contemporain, anachronique, je me dis, c'est quand même bizarre cette volonté de montrer que les démons, bon, c'est des démons, donc c'est complètement pour moi surnaturel, mais malgré tout, on risque d'avoir froid. Alors, d'un autre côté, il faut prouver que tout ça est vrai. Et je voulais savoir un peu du point de vue de l'époque, est-ce qu'il y a une différence entre ces oies et ces démons ? Est-ce que, quand on imagine un voyage grâce aux oies, c'est quand même plus probable qu'un voyage grâce à des démons. Est-ce que le statut du magique, finalement, parce que tu as dit aussi, ce qui moi aussi me perturbe beaucoup, que finalement, il n'y avait pas de ligne de partage, même dans les récits d'exploration au Nouveau Monde, entre récits factuels et fictionnels. Et par exemple, bah, je sais pas, le surnaturel, le merveilleux, est-ce que c'est pas une ligne de partage ? Enfin, pour l'époque, en tout cas.
Ça dépend de quel merveilleux. Là, on parle de démonologie. Et je vais être obligée de distinguer plusieurs choses, parce que le statut du démon est très particulier dans ce texte-là. C'est une allégorie. Démon, daimon, savoir. Donc, il représente l'astronomie, en fait. Donc, je suis obligée de te répondre à plusieurs niveaux, parce que Kepler écrit toujours, en bon philologue qu'il est, il écrit toujours sur plusieurs niveaux. Donc, les démons, c'est d'abord une allégorie du savoir astronomique, et c'est d'abord l'allégorie, la métaphore, si tu veux, du voyage optique permis par le télescope et le voyage de l'astronome par son savoir astronomique, par son démon. Mais, et là ça devient plus corsé, on est à une époque où la démonologie est absolument reconnue. Enfin, disons que ça ne fait pas si longtemps que Bodin et les autres ont écrit leur grand traité. Et le statut du démon est très intéressant à cette époque-là. Là, je renverrai au texte de Rainy Dustin sur les merveilles, sur The Wonder of Nature. Elle explique bien que le démon a un statut d'objet préternaturel, c'est-à-dire entre le naturel et le surnaturel. Donc, le fait qu'il y ait un démon dans un texte n'est pas du tout un marqueur de fictionnalité, puisque le démon fait partie dans la classification de l'époque, si tu veux, d'une espèce de milieu intermédiaire qui n'est pas du tout considéré comme totalement farfelu. Ce qui ne veut pas dire que Kepler est un démonologue, puisqu'il l'utilise, lui, comme allégorie. Mais c'est très intéressant de voir que dans le texte de Wilkins, le traité dont je parlais tout à l'heure, celui qui cite comme une espèce de liste qui nous paraît complètement invraisemblable, dans une même liste, il met ce que tu as dit, les différentes méthodes pour aller vers la Lune. Donc, il y a les démons, il y a les oies, il y a les machines. Et on a l'impression que la liste ne fait pas vraiment de différence de nature entre les différents types de voyages. Et en fait, c'est simplement à cause de ce statut-là du démon. Le démon n'est pas une fiction. À l'époque, il est quelque chose qui est débattu, mais il fait partie des...
Mais donc, à la limite, même l'oie est moins probable.
Absolument.
Que c'est le démon.
Ouais.
Et est-ce que c'est comique? Parce que quand même, enfin, nous, c'est très drôle pour nous, ces voyages avec les oies. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de quand même un peu drôle pour le lecteur, hein?
Oui, c'est complètement comique. C'est pour ça que, d'ailleurs, chez Cyrano, c'est l'histoire comique, quand même. Et puis ensuite, il y a toute une... C'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs veines. Et qu'à partir de Kepler, qui est vraiment fondateur, on peut distinguer la veine comique, la veine cyranienne, et puis ça va aller jusqu'au satire, jusqu'à Defoe, qui écrit en 1702, je crois, The Consolidated, qui est un étrange voyage dans la Lune, qui en fait se trouve être une satire totale de l'Angleterre de l'époque. Donc on a la veine satirique qui va se prolonger, on a la veine comique, on a la veine plus sérieuse qui arrive à Huygens. Mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point tout ça a une source commune qui mêle ces différents niveaux.
Je pensais, c'est peut-être complètement hors sujet, mais par rapport à la science contemporaine, je pensais à l'affaire Sokal. Et je me demandais comment vous pourriez triturer ce sujet, à savoir que des auteurs, Sokal et Brigmont, ont écrit un article scientifique en utilisant tous les termes scientifiques qui correspondent aux référis, et c'était faux. Mais ils ont eu quand même, ils ont été édités. Donc, ça montre qu'est-ce qu'un faux et comment on utilise le langage, c'est-à-dire les mots, qu'on juxtapose avec brillamment, et on arrive à fabriquer un discours scientifique. Alors là, ça relève du discours scientifique ou ça relève ça peut relever de la fiction?
Alors, la question est passionnante, mais elle est largement au-delà de mes compétences.
Ça relève des errances du déconstructionnisme. Point. point.
Merci.
On ne parlera pas de l'affaire Sokal ce soir.
Mais pourquoi pas, mais c'est très très délicat pour moi, en partie parce que l'affaire Sokal a attaqué directement Bruno Latour, avec qui je travaille beaucoup. Et moi, je ne me suis pas assez renseignée sur cette affaire. Il y a des milliers de pages sur Internet. Isabelle Stengers en a parlé dans son texte sur la guerre des sciences. J'ai pas analysé, et je vous avoue que j'aurais du mal à faire en live le lien entre la fiction telle que j'en ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la fiction comme outil, et le faux, qui est vraiment, pour le coup, un...
Mais on utilise un langage, un discours scientifique, c'est ça que je
voulais. Oui, mais il a plus du tout le même statut, là. Là, on est vraiment dans la fabrication d'un faux à usage polémique. Voilà, c'est... Je faudrait que je réfléchisse plus pour vous répondre. Je suis désolée.
Oui, c'est entre ce que disait Christine et ce que disait Marie-Hélène, le cas le plus extraordinaire de transfert, c'est le triptyque du rêve de D'Alembert, où il y a une discussion relativement rationnelle entre D'Alembert et Diderot, puis ensuite D'Alembert s'endort et commence à délirer, et ensuite... Troisième volet, Bordeaux, le médecin revient et dit bah, finalement, c'est pas si bête ce que vous avez pris en note, mademoiselle de l'Espinasse, et il est en train de tirer petit à petit les marrons du feu de la fiction.
Ouais, c'est un magnifique exemple, le rêve de D'Alembert, effectivement. Là, on est vraiment dans cet héritage-là. Mais Diderot, tous les textes de Diderot sont un magnifique exemple de ce que la philosophie et la science peuvent faire de la fiction et réciproquement. Absolument. Merci.
Merci beaucoup, je suis désolée, c'est l'heure de s'arrêter, on vous aurait écouté plus longtemps. Merci beaucoup, bonsoir à tous.